Donc, nous avons vu la semaine passée concernant encore, on est encore dans l'œuvre du Saint-Esprit. Ben, on est dans l'histoire du salut, c'est-à-dire dans toute la Bible, l'œuvre du Saint-Esprit dans toute la Bible. OK? Puis le rôle du Saint-Esprit, on va toucher quand même en ce qui concerne le rôle du Saint-Esprit, que ce soit dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, mais maintenant on est encore dans l'Ancien Testament. La semaine prochaine, du voulant, on va toucher à ce qui concerne le Nouveau Testament, l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et c'est là qu'on voit le Saint-Esprit vraiment à l'œuvre, si on peut dire, OK? Comme on répète, et dans l'Ancien Testament, il est comme en arrière-plan, quoique Dieu est toujours là et le Saint-Esprit est Dieu lui-même, sauf que son rôle est différent dans l'Ancien Testament. Donc, on est encore dans ce qu'on a vu la semaine passée, dans l'Ancien Testament. Donc, on a vu la promesse, OK? La promesse du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez? Donc, on a vu l'arrière-plan de la promesse tout au long de l'Ancien Testament. Israël, le peuple de Dieu échoué, a resté fidèle à Dieu. Je ne vais pas rentrer là-dedans, vous connaissez l'histoire, l'Exode, même avant l'Exode aussi, même si les peuples d'Israël n'étaient pas là, l'homme a été toujours rebelle à la parole de Dieu. Mais on s'est attardé sur le temps de la période du peuple de Dieu, en Israël, l'Exode en fait. Dans le désert. Donc, le temps de l'Exode et Canaan, les deux, le peuple était rebelle, oublieux, idolâtre. Vous vous rappelez le texte, comment je peux dire ça, les expressions qui reviennent souvent dans l'Ancien Testament en qui concerne Israël, c'était quoi? Un peuple de cour raide, de cour roide. OK? Donc, était rebelle, en fait. Et puis, on a vu ici les périodes de. La royauté, OK, qui est divisée, malheureusement, très tôt dans la royauté. Le règne est divisé. L'infidélité persiste, même chez les dirigeants, comme aussi, vous vous rappelez, le temps des juges aussi, il y a eu cette période-là. Mais l'Esprit des dieux était à l'œuvre aussi, mais ponctuellement dans les juges et dans les rois aussi. Les prophètes, constante la résistance au Saint-Esprit. On a parlé que même dans Ésaïe, il parle que vous avez attristé le Saint-Esprit de Dieu. Même Israël, Ésaïe, il parle de ce qu'ils ont fait. Donc, ces échecs révèlent le besoin d'une transformation, okay, intérieure et d'une nouvelle alliance même. Les prophètes ont parlé de cette nouvelle alliance. L'alliance étant quoi? L'alliance avec le peuple dans le désert avec Moïse, c'est-à-dire la loi. Et les prophètes commencent déjà à parler d'une nouvelle alliance avec son peuple. Donc, le contenu des promesses. On a vu le contenu des promesses. Vous vous rappelez qu'on a parlé le premier, qui c'est qui? Question d'examen? Il n'y aura pas d'examen. Donc, même moi, il faut que je revienne sur mes notes aussi. J'oublie rapidement, là. OK? Donc, oui, on a parlé de Joël. Vous vous rappelez Joël qui dit « L'Esprit sera répandu sur toute chair », il dit. Tous les croyants participeront à l'œuvre de Dieu. Ésaïe aussi, 32, mais Ésaïe en parle beaucoup. Ésaïe 44, aussi 59, l'Esprit comme une pluie et apportera justice, paix et bénédiction durable. On a parlé du nouvel exode, si on peut dire, spirituellement parlant, du désert, un peu. On fait les parallèles du désert avec le péché. Donc, le nouvel exode, le nouveau roi qui va venir sortir son peuple, le nouveau Moïse, si on peut dire, on va en parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est concernant le contenu des promesses en ce qui concerne le Saint-Esprit qui va être répandu. Ce n'est pas encore dans l'Ancien Testament, mais par contre, on voit des épisodes, on voit des cas où le Saint-Esprit est venu sur des personnages. Okay? On l'a vu dans la première leçon. On peut revenir sur les premiers enseignements. Sont tous sur le site web, OK? Puis même l'audio est là, donc vous pouvez revoir les cours, les leçons, si on peut dire. Jérémie parle aussi dans 31, dans le chapitre 31, il dit « La loi de Dieu est écrite sur les cœurs ». Vous vous rappelez? La relation personnelle intime avec Dieu. Et aussi Zacharie 12, 10, « L'esprit de grâce conduit à la repentance ». Ils se tourneront, ils tourneront le regard vers Dieu. Donc, les promesses de l'Esprit annoncent quoi? Une œuvre intérieure dans le cœur. Dieu va purifier son peuple, les cœurs. OK, oui. il donnera un cœur nouveau et fera demeurer son esprit en lui pour une relation vivante avec Dieu, obéissante même. Donc aujourd'hui, on continue avec la deuxième partie de cette étude, de cette leçon, qui parle de la promesse de l'esprit encore dans l'Ancien Testament, mais on va voir ensemble à qui cette promesse est destinée. Autrement dit, qui sont les bénéficiaires de ce, quoi qu'on a déjà parlé, mais on va toucher quelques aspects. Qui sont les bénéficiaires dont parlent ces prophètes, les prophètes, en ce qui concerne la venue du Saint-Esprit? C'est bon? Donc, ça, c'est la dernière partie en ce qui concerne aussi l'Ancien Testament et aussi la promesse du Saint-Esprit et l'œuvre en réalité du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. Donc, c'est ça qu'on commence aujourd'hui, dans le bénéficiaire de la promesse. En trois textes, Ésaïe et Jérémie annoncent que tous les membres du peuple de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand, connaîtront le Seigneur, dit Jérémie et Ésaïe aussi, seront ses disciples. Ça, c'est les mots qu'utilise Ésaïe déjà. Hein. Les disciples, dit, des justes et recevront le pardon de leurs fautes. Donc, Jérémie, il parle de ça. Et dans Ésaïe 54, 13, si vous l'avez dans votre Bible, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et Ésaïe 54, 13, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est Ésaïe qui emploie ce langage. Hein, c'est là. Écoutez, vous lisez Ésaïe d'entrée, 66 chapitres, mais c'est vraiment merveilleux lire le livre d'Ésaïe. Puis c'est là vraiment qu'on trouve ce qu'on voit, on va voir dans notre étude aujourd'hui en ce qui concerne l'Esprit. On va parler beaucoup du prophète Ésaïe. On a déjà en parlé la semaine passée, mais Ésaïe dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils » en annonçant vraiment le temps à venir de l'Esprit. 60:21 aussi dit « Il n'y aura plus que des justes, et parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, car le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma splendeur. » Et dans Jérémie 31:34, il dit, « Car tous me connaîtront, dit Jérémie, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Donc, ça, c'est concernant ceux qui vont bénéficier de cette promesse. Encore là, si on lit Joël, okay, le prophète Joël, séparément de tout ce qu'on a vu en ce qui concerne le Saint-Esprit, on pourrait croire que tout Israël recevra l'Esprit et échappera au jugement. C'est vrai, hein, ce qu'on a lu tantôt, on dirait que c'est tout Israël qui va recevoir l'Esprit, il va être sauvé, selon les paroles. Okay? Et comme Joël, il dit, « Après cela, je reprendrai mon Esprit sous toute chair, il dit. » Ok, pas juste son peuple, sous toute chair. Et Joël est plus précis, là. « Vos fils, vos filles. » Là, il parle vraiment de vos filles et filles, c'est-à-dire le peuple d'Israël. « Vos anciens auront des songes et les gens des visions. » Donc, si on le prend, Joël, séparément, on dirait que tout le peuple d'Israël va être sauvé lorsque l'Esprit viendra. Mais les autres prophètes précisent que ce n'est pas le cas. Seul un petit reste d'Israël sera sauvé et va hériter les promesses. Qui est ce reste-là? Avez-vous déjà entendu le petit reste, le reste d'Israël? Quand vous lisez l'Ancien Testament, il parle toujours vers la fin, vers le retour de l'exil. Dieu s'est réservé dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa grâce, un petit reste qui va être sauvé. Même si vous le voyez, quand ils sont ressortis, quand ils sont retournés en Israël après l'exil avec Esdras et Néhémie, est-ce que tout Israël est revenu à Jérusalem? Non, hein, c'est juste un petit reste qui est venu par rapport à tous ceux qui sont sortis. Donc un petit reste est venu, le reste que Dieu a choisi. Qui avait choisi de ce petit reste-là? Vous vous rappelez, il y a des personnages que nous connaissons, c'est Josué, c'est Zorobabel. Lui, c'était un des descendants de la royauté, Zorobabel. Il y a non, Caleb, peut-être il y a un Caleb quelque part, mais Caleb est là. Non, peut-être un Caleb quelque part, mais il y a Josué, il y a Zorobabel, il y a aussi Néhémie, il y a aussi Esdras, qui sont revenus avec le peuple. Un petit reste. Ésaïe nous dit, un rédempteur vient pour Sion, il dit. Un rédempteur, déjà, le mot, le rédempteur, c'est lui qui va les racheter. Okay? Pour ceux de Jacob qui se détournent de leur crime. Pour ceux qui se détournent de leur crime. Ils ont dit, il y a quand même un chiffre, un nombre. Donc, qui sont ces bénéficiaires de la promesse de l'Esprit? C'est vraiment le reste d'Israël. Okay? Donc, Ésaïe, il dit, encore plus précis maintenant, Ésaïe, il emploie vraiment l'expression. Dans Ésaïe 10, 21 à 22, il dit, « Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant, quand ton peuple Israël serait comme le sable de la mer. Un reste seulement en reviendra. » On le voit, hein? Est-ce que le salut est pour tous? C'est vrai? Est-ce qu'ils sont tous sauvés? Ils vont être tous sauvés? Malheureusement, non. Ceux qui vont se tourner vers Jésus maintenant dans la Nouvelle Alliance, ils vont être sauvés. Il y a beaucoup d'appelés, mais ce sont un peu les élus. Donc, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a choisi son peuple. Donc, déjà, Ésaïe, il mentionne, un reste reviendra. Dans Ésaïe 37, 32 aussi, car de Jérusalem, il sortira, encore une fois, un reste. Et de la montagne de Sion, les rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Tous ces passages-là sont repris dans le Nouveau Testament. Quand on va être en train d'étudier l'œuvre du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, on va revenir probablement sur ces versets-là. Ils sont cités. Mais ce n'est pas juste Ésaïe qui en parle. C'est les autres prophètes aussi. Michée. Pour aller un peu plus vite, là, je mets les... C'est bon que vous avez votre Bible avec vous, votre téléphone, vous pouvez aller voir aussi cette version, c'est la colombe. Des fois, la 1910, il y a d'autres expressions que ça enrichit notre étude. Donc, vous pouvez lever la main et nous dire ce que vous voyez écrit. Mais Michée 2:12, il dit, « Assurément, je te rassemblerai tout entier. » Ô Jacob, quand il parle de Jacob, il parle de qui? D'Israël. Ô Jacob, assurément, je te regrouperai. Vous voyez là, je te regrouperai. Reste d'Israël, il dit encore là, Michée. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça annonce déjà, hein? Le grand berger, OK? Comme le troupeau de son pâturage. Dans Sophonie aussi. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, petit reste, qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Michée y en parle encore, là. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Et encore Jérémie, encore plus clair, là il dit, « Faites-vous entendre, louez, dites l'Éternel, Éternel sauve ton peuple, le reste d'Israël. » On dirait, il y a déjà un titre, hein, à la fin, là, vers le retour d'exil, il parle vraiment « le reste d'Israël ». Donc on l'a vu, la souveraineté de Dieu, le reste, le fruit de l'élection divine, « Je vous donnerai, je mettrai mon esprit en vous ». C'est Dieu qui a choisi dans Ézéchiel. On regarde ça dans Ézéchiel 36, on l'a vu la semaine passée. L'homme ne peut pas produire ce cœur nouveau par lui-même. C'est vrai? On ne peut pas produire ce cœur nouveau par nous-mêmes. C'est à cause du Saint-Esprit qui va être possible. Vous vous rappelez l'entretien de Jésus avec Nicodème? Il faut naître d'en haut, c'est-à-dire de l'Esprit. Ésaïe nous parle du serviteur, du Seigneur, comme aussi comme le bénéficiaire de la promesse aussi. Donc, c'est-à-dire, qui est le bénéficiaire maintenant de cette promesse? C'est le reste, OK, qui nous parle les prophètes aussi. On va de façon spécifique. Mais il y a aussi un autre bénéficiaire dans l'Ancien Testament de cette promesse. C'est qui? Ça revient souvent dans Ésaïe. c'est le serviteur du Seigneur. Le serviteur du Seigneur. Certains textes permettent d'aller plus loin encore, car ils suggèrent que le reste d'Israël finirait par se réduire en personnage unique, le serviteur du Seigneur dont Ésaïe nous parle. Mais sachez que dans Ésaïe, surtout si on reste dans Ésaïe, le premier chapitre, okay, vous allez voir que qui est appelé le serviteur de l'Éternel ou le serviteur du Seigneur? Un peu, on a vu la semaine passée, c'est aussi Israël. Hein? C'est le peuple d'Israël qui est appelé le serviteur. Mais peu à peu progressivement dans le livre d'Israël, d'Ésaïe, on voit que ce serviteur, est, on dirait qu'il est personnifié par quelqu'un. Par contre, et des fois c'est entrecroisé. Là. Il y a des caractéristiques qu'on voit de ce serviteur qui est parfait. Pourtant, Israël n'était pas parfait, mais c'est comme progressif. Après, c'est le vrai, le serviteur que Dieu va susciter pour encore là sauver son peuple. Donc, Israël est appelé le serviteur. Vous allez voir dans Ésaïe 41, dans Ésaïe 44 aussi, on va voir qu'il parle d'Israël comme son serviteur. Mais toi, Israël, mon serviteur, dit 41, 8 à 9. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Waouh, il l'appelle mon ami. Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et je t'ai appelé de ses confins. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette pas. Ça, là, c'est vraiment... il parle vraiment du peuple. Mais en même temps, des fois, on dirait qu'il parle de ce serviteur qui va être obéissant. Et dans 44 aussi, écoute maintenant Jacob, mon serviteur, Israël, que j'ai choisi, c'est un peu dans le même sens, et que j'ai fait et que j'ai façonné de ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Sois sans crainte, mon serviteur Jacob, Israël, c'est lui qui est droit, que j'ai choisi. Donc on dirait qu'en même temps, il parle du serviteur Israël, mais en même temps, il parle plus tard d'un serviteur qui viendra. Parfait. Mais malheureusement, ce serviteur Israël est infidèle, incapable d'accomplir sa mission. On le voit même dans Ésaïe encore. Là. Sourd. Comment les sourds vont écouter? C'est drôle hein, comment Ésaïe parle. Il exhorte son peuple et dit, sourd, écoutez, aveugle, regardez. Aveugle, regardez et voyez même, il dit. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Là, il parle de qui? Encore là, de son peuple Israël. Et sourd comme mon messager que j'envoie? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais tu n'as pas entendu. C'est un peu des paroles que Jésus reprend, hein, en parlant à son peuple même. Et dans le temps, c'était qui? C'était qui était endurci. Qui ça? Les pharisiens, les sadduciens. Mais Dieu promet alors un serviteur parfait qui accomplira ce qu'Israël n'a pas réussi à faire. Et encore là, on le voit dans le chapitre 49. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé de le sein maternel pour être son serviteur. Pour ramener, c'est pas le peuple ça, hein? Ok, maintenant il parle de, c'est quelqu'un, non? Pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. On peut même dire que c'est comme des paroles de Jésus, le serviteur, qu'on va voir plus tard. Là. Donc à ses serviteurs, maintenant, que Ésaïe parle, ce serviteur qui va venir sauver son peuple, qui va pardonner, même qui va, on va le voir dans Ésaïe 53, ce serviteur-là, il est aussi, et comment je peux dire, il est bénéficiaire aussi du Saint-Esprit. Il a été aussi promis à lui. Pourquoi? On voit dans Ésaïe 42, voici mon serviteur, terre auquel je tiens fermement, mon élu, et qui mon âme se complaît, j'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Donc le Seigneur mettra son esprit sur sur lui, sur le serviteur. C'est-à-dire, il va loindre. C'est-à-dire, c'est le serviteur, mais oindre, ça veut dire quoi? Dans le Nouveau Testament, on traduit quelqu'un qui est oindre comme roi, c'est un messie, c'est un roi. Donc, on proclame une bonne nouvelle aux affligés et qu'ils fassent paraître la justice pour le peuple. Donc, qui est bénéficiaire aussi? Le reste, mais aussi le serviteur qui a été annoncé dans Ésaïe. Ésaïe 42, ici, moi, Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple. Là, il parle déjà d'une alliance, d'une nouvelle alliance. Avec le peuple pour être la lumière des nations. Ces mêmes versets, ces mêmes passages sont repris dans le Nouveau Testament pour parler de qui? Pour parler de Jésus, le serviteur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le serviteur est quoi dans ces passages-là? Quel est le rôle de ce serviteur pour le peuple? Qu'est-ce qu'il va faire, selon ce qu'on a vu? Faire la justice, faire alliance aussi. La lumière des nations, oui. Qui était le serviteur dans le désert qui a conduit son peuple? C'était Moïse. On va voir des parallèles tantôt. Hein? Moïse avait l'esprit, c'est sûr. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé avec les anciens qui ont venu en aide? Dieu a pris de son esprit, il l'a donné à 70 anciens. Et qu'est-ce qu'il dit Moïse? Il dit, j'aimerais que tout le peuple ait cet esprit-là en eux pour qu'ils prophétisent. Mais le serviteur est un nouveau Moïse. Ce serviteur qui parle Ésaïe, c'est un nouveau mais Moïse. Non en tant que médiateur de l'Alliance, mais aussi en tant que prophète. OK? Et enseignant la loi, conducteur d'un nouvel exode, si on peut dire, spirituel. Ça, c'est le nouveau serviteur. Dans Ésaïe 11, on ne pourra pas aller lire tous les textes, mais Ésaïe 11, 1 à 2, et il dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. » Si vous avez Ésaïe avec vous, là, dans le chapitre 11, 1 à 2, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. » C'est qui, ça? Ésaïe. Et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de veillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. De qui vous pensez qu'il parle? Oui, puis il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. C'est qui Ésaïe? Ésaïe, pas Ésaïe. C'est qui Ésaïe? C'est un peu comme... Oui, c'est le père de David. Donc, c'est pour ça que de la descendance, de la royauté de David va sortir. Ce verset nous présente donc le Messie est loin, le Messie, ce serviteur, le roi descendant de David, dont le serviteur du Seigneur est aussi le Messie. Dans Ésaïe, nous allons voir, des fois il parle du serviteur, des fois il parle de la descendance de David. C'est vraiment le Messie. C'est la même personne en fait. Le Messie joue un rôle que le serviteur, le même rôle que le serviteur du Seigneur. Tous les deux reçoivent l'Esprit. On a vu dans Ésaïe 11, Ésaïe 42 aussi. Si on se rappelle de quelques passages dans même Ésaïe, il dit, dans Ésaïe 9, il dit, « Il étendra la souveraineté et donnera une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Vous voyez, il sort même de la royauté de David. « Je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les grâces assurées à David » parle Ésaïe 55. Ézéchiel dit, « J'établirai sur elle un seul berger, Ézéchiel 34, un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David, lui les fera paître, il sera leur berger. » Je suis en train de lire Ézéchiel 34, 23, 24. Il est où David dans les temps d'Ézéchiel? Il est où David? Qu'est-ce qu'il fait David dans le temps d'Ézéchiel? Si on voit le temps. Il est mort, mais oui. David est déjà mort, là. OK? Puis Ézéchiel dit, « J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. » Comment il peut parler du serviteur David, mais si David est mort? « Lui le fera paître et lui sera il sera leur berger. C'est vraiment est en train de dire la promesse qui avait été faite à David. Qu'est-ce qu'il a promis Dieu à David? Qu'il descend des sentences. Sortira quoi? Le Messie. C'est lui qui va guider son peuple. Donc c'est pour ça que Ézéchiel parle de ce nouveau David. Et Jérémie 30, il dit, « Servions l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur susciterai. » Est-ce qu'il va avoir un autre David? Dans l'histoire biblique, on n'a pas eu l'histoire d'un autre David, hein? Même avec le même prénom. Des fois, il y a des rois qui ont le même prénom, hein? Presque. Hein? C'est vrai, c'est confusant des fois. Mais David n'en a pas eu un autre. Il n'en a pas eu un autre. Est-ce qu'il peut-être il y en a eu? Oui, mais peut-être il va mentionner dans la Bible un personnage qui s'appelait David, peut-être, mais pas comme roi. Donc, le serviteur et le Messie, c'est le même. Donc, on voit ici deux grands fils qui se rejoignent dans ce qui annonce les prophètes. C'est le don de l'Esprit, OK? Le don de l'Esprit et la venue du Messie. Vous voyez là, en ce qui concerne l'Esprit, c'est le don de l'Esprit et en même temps, la venue du Messie, la venue de ses serviteurs et seigneurs. Déjà, dans Ésaïe, on pourrait déjà voir ça, que Dieu avait promis par ses prophètes l'Esprit qui serait sur le peuple, mais en même temps, il y allait avoir un nouveau serviteur. Même Moïse avait déjà dit, hein, « Dieu vous suscitera un prophète comme moi, il dit. » Dit Moïse dans le Deutéronome. Donc, Ésaïe montre que le nouvel exode, c'est-à-dire le retour spirituel du peuple de Dieu, sera conduit par ce Messie. Si on peut dire, celui qui a reçu l'onction, loin de l'Éternel, c'est lui le Messie. Donc, c'est dans le contexte que l'Esprit de Dieu transformera ce peuple, que ce Rédempteur, que ce Messie, ce serviteur viendra. Mais cependant, même chez Ésaïe, on ne dit pas encore clairement que le Messie lui-même donnera l'Esprit. Hein, parce que ce n'est pas clair. Là. Oui, il va venir il viendra en serviteur, il viendra un Messie, OK? Vous voyez dans Jean, là, quand on va étudier Jean, l'évangile de Jean, on est en train de l'étudier, il y a des gens qui disent qu'ils ont vu en Jésus quoi? Le prophète, hein? Ils ont vu en Jésus le prophète. À quoi ils font allusion, eux, quand ils disent, oh, c'est peut-être le prophète, là? Je pense que la femme samaritaine a parlé de ça, non? Il a reconnu Jésus comme le prophète. Elle parle de qui, là? C'est sûr, les Samaritains, il y avait comme livre sacré, c'est juste le Pentateuch. Donc, sûrement, il faisait référence à qui? Ce que Moïse avait dit, je vous enverrai un nouveau prophète. Mais des fois, on voit ce serviteur, Jésus, on le voit aussi d'autres façons. On pourrait le berger, mais aussi comme le Messie. Le Messie, des gens l'ont reconnu, c'est pas celui, le Messie, qui viendra, ou le Messie, quand il viendra, il connaîtra tout. Il y a des expressions comme ça qui viennent dans Jean. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'est pas encore clair, si clair que ça, à moins que les gens reçoivent une révélation de Dieu par son esprit. Je crois que les disciples, les prophètes avaient quand même qu'est-ce que vous en pensez? Les prophètes avaient quand même une idée de ce que Dieu parlait par rapport à ce serviteur, non? Vous vous rappelez quand Jésus est venu, on est encore dans une étape dans le milieu, si on peut dire, entre l'ancienne et la nouvelle alliance. On est encore sous la loi, Jésus est venu sous la loi. Mais on voit des gens qui viennent d'ici et là. Vous vous rappelez de Siméon? Siméon, il parle vraiment comme quoi il a reconnu en Jésus, en ce petit bébé, comme le salut des nations. Wow! Qui lui a révélé ça? Sûrement Dieu lui a révélé. Sûrement il a compris, c'était un homme pieux. Il comprenait, peut-être pas à 100%, qu'il comprenait vraiment que si Jésus était le Messie promis. Comme Anne aussi, le même jour. Anne, la prophétesse, là, dans le Nouveau Testament, elle a reconnu Jésus comme le Messie qui allait venir. Ce sera seulement, comme on vient de dire, dans le Nouveau Testament, que cette vérité sera pleinement révélée. C'est-à-dire, Jésus est le Messie et Jésus est le berger. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus aussi en ce qui concerne l'Esprit? On va le voir sûrement quand on va étudier, mais qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Est-ce que Jésus a reçu l'Esprit? Oui, mais Jésus est Dieu. Comment ça se fait qu'il va recevoir l'Esprit? Oui, mais lors du baptême, il a reçu l'Esprit pour commencer son ministère. Ok, il a reçu l'Esprit, il le dit clairement, l'Esprit de Dieu tombe bas sur lui, en forme de colombe. Il était plein d'Esprit, mais il était pleinement Dieu aussi, pleinement homme. C'est un mystère, on ne peut pas saisir ça, mais c'est réel. Il a reçu l'Esprit, et puis il a commencé son ministère. C'est le serviteur, c'est le Messie. Et c'est lui qui s'approprie de ce que les prophètes ont parlé, non seulement en ce qui concerne le peuple, okay, mais concernant lui-même. Isaïe 61:1, vous voyez qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, c'est-à-dire, c'est-à-dire il est le Messie. Il m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui sont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs leur libération. Encore là, vous voyez là, libérer les esclaves du péché. Encore là, un exode spirituel, si on peut dire. Libération et aux prisonniers, leur élargissement ou leur affranchissement, si on peut dire. Donc, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Qui a pris ces paroles là? C'est Jésus lui-même, et Matthieu l'attribue même à Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Aujourd'hui, je pense qu'à la synagogue, Jésus, à un moment donné, mentionné aujourd'hui, cette parole est accomplie en moi. C'est lui le Messie, c'est lui le serviteur fidèle. Jésus, le Messie. Il est le serviteur, le véritable serviteur, le véritable même Israël. Matthieu applique à Jésus les textes du serviteur, vous voyez là, ainsi s'accomplit. Matthieu est en train de voir ce que Jésus fait, et il dit, ainsi, tout ce qu'il faisait, les miracles et tout, il dit, ici s'accomplit la parole du prophète Isaïe, il prit nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Le serviteur, on peut voir aussi dans plusieurs passages, dans Actes, vous rappelez au début de l'Église, là. Actes, Pierre, il dit, Pierre appelait Jésus ton serviteur, il dit. Et quand il dit qu'il a été livré, et ils ont pris ton serviteur. Philippiens aussi, Paul utilise, il a pris forme d'un serviteur, il s'est humilié à lui-même. Et en ce qui concerne le Messie, en ce qui concerne Jésus, et puis qu'est-ce qu'il confesse, Pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, le Christ, c'est-à-dire le Messie. C'est la traduction de l'hébreu en grec du mot Messie, le Christ. Et on peut encore voir d'autres textes. André dit à Simon, vous rappelez, on a déjà étudié dans Jean 1, et André dit à son frère Simon, nous avons trouvé le Messie, il dit. Nous avons trouvé le Messie. Donc, on peut avoir d'autres versets, d'autres textes qui parlent de Jésus comme le Messie. Encore là, Matthieu 12, 17 à 18, afin qu'il s'accomplisse. Encore Matthieu, il fait ce commentaire en ce qui concerne Jésus. La parole du prophète Isaïe. Voici, mon Seigneur, là, c'est plus clair encore. Hein. Pas juste les choses qu'il a fait, okay, des miracles, mais là, il va vraiment donner ses titres à Jésus même. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, et qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. C'est Matthieu qui est en train de parler de Jésus en ces mots. Donc il reprend ce qui avait été dit par Esaïe. Moi, l'Éternel, dit Esaïe 42, j'ai appelé J'étais appelé pour la justice. Donc Jésus est le serviteur, Jésus est le Messie, mais aussi le vrai Israël, le Fils de Dieu. On le voit beaucoup dans Jean. Israël est appelé dans l'Ancien Testament mon fils, fils de Dieu. Malheureusement, infidèle dans l'Ancien Testament. Vous voyez dans Exode, il dit à Moïse, il dit, tu diras au Pharaon, il dit, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Il y a ces expressions, dans même Osée, il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. À quoi il fait référence, Osée? J'ai appelé mon fils, qui? Israël, hors d'Égypte, quand ça? Lorsqu'il a fait sortir de l'esclavage. Mais Matthieu va reprendre ce verset-là aussi. Donc Jésus est le vrai fils, le vrai Israël. Et dans les évangiles, Jésus reprend l'histoire d'Israël et l'accomplit parfaitement. Matthieu, il dit, dans 2,15, il dit, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand est-ce que Matthieu a appliqué ces paroles? C'est ce que Ésaïe avait dit. Non, pas Ésaïe, Osée. Quand est-ce qu'il a appliqué ces paroles à Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les circonstances? Quand Matthieu a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous voyez, quand on voit le plan de Dieu et comment tout ça concorde, on est vraiment étonné comment Dieu... De temps en temps, il y avait déjà un plan parfait pour nous, pour son salut. Et Matthieu, il reconnaît cela. Il dit que Israël, qui est appelé son fils, il l'applique à Jésus. Quand Joseph et Marie ont dû partir en Égypte, pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Donc, après, ils sont revenus. Et dans ce sens-là, que Matthieu dit, voilà ce qui s'accomplit. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Dans Matthieu 3,17 aussi, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Qui parle? C'est l'Éternel, Dieu. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est le vrai Israël, en qui j'ai mis tout. C'est lors du baptême de Jésus. Mais Jésus est le serviteur et le fils et le Messie, mais en quelque sorte on pourrait dire aussi que c'est le reste. Donc il représente, si on peut dire, le reste. Les chants du serviteur, on voit ça, ces chants-là dans Ésaïe, on a appelé ça les chants du serviteur parce qu'il parle, il s'adresse, il parle de lui-même aussi, le serviteur, le Messie même, on pourrait dire. Le chapitre 42, vous allez lire, le 49 aussi, 53. 53, qui ne connaît pas l'Ésaïe 53 quand il parle de Jésus, son sacrifice? Littéralement, ces chants-là désignent à la fois Israël et à la fois un individu. Jésus est ce serviteur qui porte les péchés du peuple et devient comme le reste, parfait. C'est lui qui va faire. Parce que des fois, le reste dans Ésaïe, ce reste-là, il parle comme un reste qui est parfait, là. Un peuple parfait pour Dieu. OK? Mais c'est vraiment Jésus qui accomplit. Éphésiens 1, il dit, il a tout mis à ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, il parle de Jésus, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il est tout vraiment. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, oui, Jésus est le souverain sacrificateur, mais aussi Jésus est l'offrande aussi pour le péché en même temps. Donc Jésus est le reste, le véritable Israël. Il est une personne qui garantit la fidélité à l'Alliance. Et le fondateur d'un peuple renouvelé par l'Esprit. Donc l'Église, peuple en Jésus, c'est aussi le nouvel Israël, le peuple de Dieu. Et il est redéfini par la descendance d'Abraham. Mais par la foi, non par la descendance physique, mais par la foi en Jésus. Vous voyez, Paul y en parle dans Galates 3,16. Il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham. » Qu'est-ce qui a été promis à Abraham? Vous vous rappelez? Dans ta descendance, seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, ces promesses ont été dites, là, il dit, Paul, il dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, il dit. Mais il n'est pas dit aux descendances, Paul, il dit, OK? Comme s'il s'agissait de plusieurs descendances, mais comme une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Il appelle vraiment à cette descendance, il personnifie cette descendance en Christ seulement. C'est encore plus clair quand il dit dans Galates 6, là, il dit, car ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, il est en train de parler aux Galates, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Qui est l'Israël de Dieu? C'est, on pourrait dire, l'Israël spirituel, l'Israël qui accomplit, à qui l'Esprit vient sur elle aussi, sur ce peuple, pas sur lui, sur ce peuple, c'est le peuple de Dieu, Israël de Dieu. Donc l'Église, juive, païen, ok, tous ceux qui sont croyants est appelé le véritable Israël de Dieu. Et pas seulement Paul qui prend ce langage un peu de l'Ancien Testament en ce qui concerne le peuple de Dieu. Pierre aussi, 1 Pierre 2, 9 à 10, l'applique à l'Église et même les titres d'Israël, race élue. Vous voyez, quand Pierre écrit dans la deuxième lettre, vous êtes la race élue, sacerdoce royal, nation sainte. C'est un peu des caractéristiques aussi d'Israël. Et il applique à qui? Vous. Qui ça? Les croyants. Qui ça, les croyants? L'Église de Dieu. Donc les promesses données à Israël sont oui et amen en Jésus-Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens 1, 20. Donc, tout s'accomplit en Jésus, toutes ces promesses-là. Donc, qui sont les bénéficiaires de ces promesses de l'Esprit qui vont venir, qui va venir sur eux? Qui sont ces bénéficiaires jusqu'à maintenant? C'est le reste d'Israël. Qui d'autre? C'est le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Mais aussi, on voit, pas seulement dans les autres les prophètes, mais on voit aussi que les autres peuples aussi sont bénéficiaires de cette promesse. Amos 9, 11 à 12. En ces jours-là, je relèverai la cabane chancelante de David, c'est-à-dire la descendance de David. Encore, on fait un peu référence encore à la promesse qui a été faite à David, que de lui sortira le roi, c'est-à-dire il parle du roi Davidique. Et j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, et je le rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il entre en possession du reste des dons et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Il inclut déjà toutes les nations, oracle de l'Éternel qui accomplit tout cela. Sinon, Zacharie aussi. Beaucoup des nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple, je demeurerai au milieu de toi. À qui peut s'appliquer c'est ce que le prophète Zacharie dit? Que dans les temps du retour de l'exil, toutes les nations se sont attachées à l'Éternel, vous pensez? Peut-être une partie encore, au reste d'Israël. Vous vous rappelez quand le retour d'exil, le peuple s'est tourné vers Dieu, il a cherché vraiment Dieu, pour longtemps malheureusement. Après, il s'est encore détourné, même dans Néhémie, on voit ça. Mais Zacharie, il va plus loin encore, beaucoup des nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Il parle vraiment des nations qui vont venir, d'autres nations, à part le reste, à part Israël, d'autres nations. Encore là, dans Ésaïe, il dit, en ce jour-là, Israël sera en troisième, avec José. Cherchez sur Google, beaucoup des nations s'attacheront et vous allez voir que c'est la bonne. Zacharie 2,15, c'est peut-être pas ça. De 11. Merci, Pierre. Eh, Pierre est rapide au... Pierre est rapide sur le piton, là, comme on dit. Oui. C'est de 11. Est-ce que c'est bien de 11? OK. Beaucoup de nations... merci, vous êtes là pour... si jamais je mets Jean dans l'Ancien Testament, vous êtes là pour me dire, hey, Jean n'est pas dans l'Ancien Testament. Donc c'est bon, Zacharie 2, 11, je vais les modifier. Vous êtes comme les chrétiens des bérets. Et, mais c'est bien. Hein? Il faut vraiment vérifier, là. Il faut voir vraiment pour que ce soit clair ce qu'on est en train de dire. Isaïe 19, 24 à 25. En ces jours-là, Israël sera en troisième avec l'Égypte et la Syrie. Et hey, c'est qui l'Égypte dans le temps, là, dans ce temps-là? Des amis d'Israël? Non, hein? Et la Syrie? Non plus. OK? Il dit, en ce jour-là, Israël sera en troisième, avec l'Égypte, et la Syrie en troisième, en quoi? À être une bénédiction pour toute la terre, que l'Éternel des armées bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple! » Wow! La Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Il appelle son peuple qui? L'Égypte, même la Syrie. Mais on peut voir juste ça que cela s'accomplit en nous aussi maintenant, comme l'Église, de peuple, des gens de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Il y a beaucoup de, à lire dans ce, pour ce passage-là, OK? Pour ce, ce thème-là. Et à lire absolument Ésaïe 56, 1 à 8. C'est merveilleux ce texte-là. On n'aura pas le, le temps de passer... avec ça, 1 à 8. Il y a aussi le chapitre 66, 18 à 24. C'est vraiment le chapitre 66, 18 à 24, c'est comme l'Apocalypse. Moi, je crois que ça vaut la peine d'aller voir. Qui pourrait le lire? Ésaïe 66, 18 à 24. Wow, tout un texte. Hein? C'est vraiment le dernier chapitre d'Ésaïe. Ésaïe a été appelé comme un peu l'Évangile dans l'Ancien Testament. Et il y a 66 chapitres. Hein? C'est pas pour rien, là. C'est comme 66 livres de toute la Bible, là. Puis vous allez voir, là, c'est étonnant voir comment Ésaïe, progressivement, il proclame, là, un peu l'Évangile, mais même dans le serviteur, Ésaïe 53. Et ça, selon toi, José, on peut appliquer à qui, ça? C'est ce que tu viens de lire. Je crois que c'est facilement, on peut appliquer ça à la fin des temps. À l'Église, au peuple de Dieu. Il parle de nouveaux cieux, nouvelles terres aussi. C'est ce que l'Apocalypse parle aussi. Donc, je peux, on peut appliquer ça vraiment, comment Dieu a sauvé toutes les nations, de tout peuple, de toute langue. On pourrait encore lire d'autres versets, mais c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, en ce qui concerne les autres peuples. Isaïe, je répandrai sur eux sur le sol altéré, je reprendrai mon esprit. Là, on peut appliquer tout ce qu'il parle en ce qui concerne à qui va attribuer l'esprit. On peut parler même des autres nations aussi. Isaïe le dit dans d'autres chapitres. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, alors le désert deviendra un verger. C'est beau, hein? On peut voir ça lors de la venue de l'esprit. C'est-à-dire lors de la naissance de l'Église, le nouveau peuple de Dieu. Donc une transformation universelle. Il anticipe même le règne messianique pour toutes les nations, ce qui est annoncé aussi dans l'Apocalypse. Ézéchiel aussi, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivrez mes ordonnances. Je mettrai en vous mon esprit. Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il montre que ces promesses-là, que toutes ces promesses-là qu'on voit, et s'étend aux païens aussi, qui croient en Jésus. Dans 3, Galates 3, 14, il dit, « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, il dit, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis, il dit. » L'Esprit qui avait été promis. Donc, il parle vraiment des prophètes. Et il parle vraiment de Jésus, et il parle aussi des païens, l'accomplissement même dit en Jésus-Christ. Galates 3, 14. Pierre, dans Actes, vous vous rappelez le chapitre C'est Corneille. Corneille, c'était qui Corneille? C'était un craignant Dieu. Est-ce qu'il était juif? Non, il n'était pas juif. Donc, quand Pierre est devant lui, tous les croyants, il dit là, verset 45, acte 10, 45, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Paul, il dit dans 2 Corinthiens 3, 3 à 6, il dit, « Vous êtes une lettre de Christ, écrite non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. » Là, il est en train vraiment de ce qui a été annoncé par Jérémie, par Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, 2 Corinthiens 3, 3 à 6. Donc, trois choses à retenir, éléments clés sur l'œuvre du Saint-Esprit. La dimension eschatologique, c'est-à-dire les choses de la fin, les dons de l'Esprit est lié à l'avenir, au temps messianique. Il constitue une marque essentielle de la nouvelle alliance, le don de l'Esprit, en permanence. C'est ce qui fait la différence avec l'ancienne alliance. OK, on a déjà dit ça. Un deuxième point, que cet esprit est pour tout le peuple de la Nouvelle Alliance. Pour tout le peuple de la Nouvelle Alliance, tout le peuple de Dieu maintenant. Le Saint-Esprit vient sur tout le peuple. La promesse s'applique à tous les membres, du plus petit au plus grand. Tous recevront l'Esprit. Nous tous, qui sommes chrétiens, qui nous disons chrétiens, nous professons la foi en Christ, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Le peuple nouveau est entièrement animé par l'Esprit. Le peuple de Dieu possède tous l'Esprit de Dieu. Et comme troisième point, c'est l'ouverture aux nations. Donc, la promesse de l'Esprit concerne aussi les non-israélites, OK, ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Ils contiennent les non-israélites, les païens, tous inclus dans le futur peuple de Dieu, aux côtés du reste encore d'Israël. C'est vrai que l'Église est née de quoi? Du reste d'Israël. C'est vrai, c'est pour ça que l'Église est comme le nouveau Israël, spirituel, l'Israël de Dieu. Ça a commencé par les Juifs, hein? Quand ça, dans Acte 2, ça a commencé là. Tout ce qui était réuni, le Saint-Esprit est venu. Mais peu de temps après, l'Esprit est venu aussi sur les païens et tout le peuple. C'était dans le plan de Dieu. Donc en Jésus, nous sommes les bénéficiaires aussi de la promesse du Saint-Esprit. Nous tous, l'Église. Et cela nous permet de vivre une relation personnelle avec Dieu, authentique. Et non seulement une relation, non seulement c'est le privilège d'avoir une relation avec Dieu. Quoi d'autre se rajoute avec l'Esprit? D'être transformé intérieurement et de marcher en fidélité. Vous rappelez le peuple de Dieu qui ne marchait pas et pourtant était appelé son serviteur. Maintenant, est-ce que nous sommes serviteurs de Dieu? Oui, même Paul, il dit, je suis esclave de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Donc l'Esprit fait de nous un seul peuple. Et un autre aspect qu'on peut voir pour nous, c'est l'unité. On est le peuple de Dieu uni. Vous vous rappelez, Paul, je pense qu'il parle, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur de tous. Donc l'unité. L'Esprit fait de nous un seul peuple, ouvert aux nations même, et nous envoie comme témoins. Vous seriez tous mes témoins. Témoigne de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Enfin, savoir cela, il nourrit notre espérance du royaume à venir. C'est vrai qu'on est aussi dans l'attente, nous, de le royaume accompli, complet, là, en Jésus-Christ. Il régnera pour l'éternité avec son peuple. Nous pouvons maintenant, en attendant, prier, et que le Saint-Esprit produise en nous la sainteté, et en attendant le retour de notre Seigneur Jésus. L'esprit dit que c'est le l'esprit dans le chrétien, c'est comme la garantie, les arts de l'esprit, il parle. Le Saint-Esprit donne témoignage à notre esprit que nous sommes aux enfants de Dieu. On va le voir. Aujourd'hui, on finit cette partie en ce qui concerne l'Ancien Testament, qui est annoncé en ce qui concerne l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on l'a vu, et parmi son peuple, ponctuellement, parmi les rois, les juges, les dirigeants. OK, maintenant, la semaine prochaine, on va commencer en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et on va aller progressivement. On va toucher beaucoup en ce qui concerne Luc. Luc, il parle beaucoup de l'Esprit. Hein? Luc, c'est lui qui a écrit l'Évangile selon Luc, mais aussi la deuxième partie, si on peut dire, les actes des apôtres. On va voir aussi beaucoup. Tout le Nouveau Testament témoigne de ça. Mais il y a des livres qui sont spécifiques en ce qui concerne la venue de l'Esprit aussi. C'est dans Jean. Jean, on l'étudie à tous les dimanches, mais plus loin dans Jean, chapitre 12, je crois, l'Esprit est promis, le Consolateur. Donc Jésus, c'est Jésus qui va l'envoyer. Mais son Père, il l'a envoyé aussi. Mais Jésus l'envoie aussi. Donc c'est qui envoie? C'est Jésus ou son Père? Mais Dieu, Jésus est Dieu, Dieu. Et donc c'est Dieu qui envoie aussi l'Esprit de Dieu à son peuple. Mais il y a des fois que c'est même Jésus qui parle comme que c'est lui qui envoie son Esprit. L'Esprit de son Fils. Donc, on va voir tout ça dans différents livres du Nouveau Testament. Et pour l'instant, on a fini en ce qui concerne l'Ancien Testament. C'est sûr, on va revenir sur les prophètes. On va encore revenir. Mais on va se concentrer plutôt sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et on va toucher ce qu'on a parlé, le changement de notre cœur, la régénération. Okay? On va toucher tous ces sujets-là. Merci Seigneur pour ton esprit qui vit en nous, Seigneur. Merci Seigneur pour cette promesse, Seigneur. Et on parle déjà des plus de 2000 ans, Seigneur, que ces promesses ont été faites. On voit ta fidélité, Seigneur, puis merci parce que tu es avec nous, tu es en nous, Seigneur, par ton esprit, puis dirige-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à ne pas nous détourner, Seigneur, de ta voix. Seigneur, aide-nous à persévérer dans notre vie, Seigneur. Puis, te bénissons, nous te glorifions, t'exaltons, nous te louons pour tout cela, Seigneur. Et puis, je te prie que tu puisses être avec nous pour la suite, Seigneur, dans le culte. Bénis les chants qu'on va avoir pour toi. Bénis le temps du baptême aussi, Seigneur. Et le temps du repas du Seigneur. Puis, le reste de la journée aussi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.